cherche le son.
De la ville coule dans un réservoir. De trambibus qui font une gare à 20 minutes d'intervalle. Vanne, vanne, vanne. Une paysanne, vanne, 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 porte tous ses rues au marché. Un marchand des toffes, 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 avant de s'y mettre nos doigts.
Mon Dieu, c'est l'arithmétique.
Tic, tic, tic.
Centimètres, décimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, myriamètres, centimètres, qu'elle fait des millions, des millions, des trillions, et des fois, si
le robinet coule dans un réservoir, de trambibus qui te tue le car à 20 minutes de l'hôtel.
Une paysanne, vanne, 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 porte tout seul.
Un marchand d'étoffe, d'offre, 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 avant de suivre.
Le robinet coule, 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 coule dans un réservoir.
Une paysanne, zanne, 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 s'en va de marché.
Eh oui, peut-être, peut-être, est-ce que cela, cet extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel sur un texte de Colette, là sous la direction de Laurine Mazel, peut-être, peut-être cela, chers auditeurs, chères auditrices, vous a évoqué quelques souvenirs de classe. Ou peut-être pas, mais enfin, le robinet qui coule, le machin qui est, etc., etc., etc. Mais pourquoi cet extrait pour la 283e édition des Petits Tas dans le Mou? Parce que, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes aujourd'hui la Saint-Lippe. Et Lippe, c'est le patron des humanités. Alors, on a un peu oublié ce que c'était que les humanités. Eh bien, c'est la base de l'éducation qui comprenait, bien évidemment, le grec et le latin, sans s'y décrier par les temps qui courent sur notre, dans notre pays. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat dans lequel nous ne rentrerons pas dans cette émission-ci. Mais Lippe, eh bien, il a réellement existé. C'était un comte destiné à être prince, le comte de la Lippe d'Etzmolt. En Westphalie, en Allemagne. Il était né en 1767 et mourut en 1802. Et comme il devint comte à l'âge de 7 ans, et donc il ne pouvait pas encore être prince, eh bien plein de gens se sont associés comme ça, des intellectuels de l'époque et du coin de la Westphalie, pour venir lui donner les humanités jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge des 116 ans pour devenir réellement prince de la Lippe d'Etzmolt. Et il deviendra Léopold Ier, voilà. Ensuite, eh ben, il fera un garçon qui sera Léopold II, ensuite il y aura Léopold III, et ce jusqu'en 1895, où l'Allemagne décide d'arrêter les comtés et d'arrêter qu'il y ait des princes sur son territoire, en 1895. Bon, donc aujourd'hui, pendant une heure, on va tâcher de vous poser cette question et de la poser sous plusieurs angles. Est-ce que la culture aide à lever les scrupules ? Vous êtes sur Radio Canu, la plus belle des radios, les Petits Tas dans le Mou. Rubrique Alpha. Insomnie de préfet. Insomnie d'anarchiste. Ça aurait été plus noble pour le président de mourir au Panama. On se demande souvent où se situe l'avenir du siècle, et plus particulièrement de ceux qui suivront le siècle présent. Fin du 19e siècle. Ravachol. Auguste Vaillant. Émile Henry. Trois précurseurs à qui l'on ne pardonna pas. Mort pour mort, la couleur de l'anarchie reste et restera le noir. Ce qui est singulier, c'est que Sadi Carnot avait quelque part un sang juif. On peut se demander si les anarchistes sont des Christs à rebours, qu'il faut par conséquent lapider pour que les pierres Ponce Pilate finissent en paix de ronger les angles optiques. Et de préparer la guerre. C'est une chose mal étudiée dans les livres officiels. Il y a les préfets pour pressentir les événements. Celui de Loire inférieure, à l'heure que nous évoquons, 13h13, serait fou d'avoir des doutes. Les indicateurs, dont les noms sont des nombres, 12, 14, 6, etc., ou bien des espèces animales, s'alignent sur les consignes du vautour. Une hyène est morte d'inanité dans le désert parce que les fauves avaient quitté le pays à cause du moisi qui saisissait tous les cadavres, cadavres dont les lâches s'étaient répartis les plus beaux restes. Et se nourrir de cactus, ce n'est pas spécialement réjouissant. Sadique Carnot, prophétisait un courrier de janvier 1894. Vous êtes excommunié, votre sort est réglé. Lorsque vous irez en province, vous n'en reviendrez plus. Vous n'habiterez plus l'Élysée. La vengeance vous attend, car vous avez fait fusiller ce pauvre Vaillant. Votre tour va venir, sacripant et voleur. Parole de libertaire envolée jusqu'à 7. Où dans son nid creusé dans l'escarpement de la falaise, l'enfant de la Motta Visconti, jour après jour, jouait avec l'éclipse et les fragments de roche qui s'effritent dans la mer sous l'effet d'une brise amère. C'est drôle, ce qui trotte ce soir dans la tête du préfet terrible, traqueur de bombes incendiaires. Il a construit sa phrase comme une fable de La Fontaine. Perquisition chez la barre, café du centre. Perquisition chez un tel, telle adresse, telle croix sur le plan de la ville. Trouve-t-on des poux sur les cornes des taureaux qu'on émascule ? Une drôle d'idée le brûle comme ça, pour la fiction. Pour meubler une nuit d'insomnie où il n'a pas fait l'amour. Et s'il convoquait un privé qui vendrait ses d'honneur aux anarchistes. Tiens, le soir à la maison, la nuit de préférence, quand il se tait, l'homme, mais qu'il faut bien respirer quand même, quand il ne dort pas, quand, agrippé à son tue-mouche, il vomit la nuée d'insectes qu'il fait vivre à ses dépens. Cette idée, et c'est pour ça que la nuit, cette idée le porte irrésistiblement à gifler sa femme comme une vague, à gifler sa femme comme une vague, puis sa fille comme une vague, puis son chien, puis l'os de son chien, puis la moelle de l'os de son chien, puis plus rien. Être, oui, être, lui, l'indicateur qui donne à leur cible les donneurs qu'il paie. Être lui, l'anonyme qui rétablit son honneur dans l'ordre de ce qu'il appelle honneur. Lui, l'homme d'honneur qui vient de gifler sa femme. Il faut dire que ce Caserio vient de tuer le président de la République française et que l'œil du sacrifié noircit comme un bout de tissu derrière le front du nommé Caserio. Du pariétal à l'occipital, Caserio ne cesse de sourire, un sourire sans remous, qui repose sa main droite sur la dernière rampe à quoi se retenir. Des remords ? Il n'en a pas. À la République de Tranchée, aux 12 citoyens rentiers, aristocrates, médecins et grands industriels. Un dernier mot, messieurs les jurés. Si vous voulez sa tête, prenez-la. Mais ne croyez pas qu'en la prenant, vous réussirez à stopper l'anarchie. Un petit quart d'heure de délibération. L'exécution aura lieu sur une des places publiques de Lyon, au choix des autorités administratives. Le sourire s'est contracté. Le sang noir vient enfin de boucher le fond du puits, la nappe phréatique. Sur la barre, les deux mains s'écartent l'une de l'autre. À quoi l'une reconnaît-elle l'autre ? Si on lui tranche la tête, à quoi son œil reconnaîtra-t-il les mains qui pendent de chaque côté de la veuve et puis tombent en cœur dans le sang ? Un panier pour la tête, un panier pour le corps, les mains, le reste. Tout perdu dans le sang, comme un tout petit enfant. Quelle émotion restera-t-il à la base de son cou ? Quelle blessure ? Il ne faut pas s'examiner de trop près, simplement se défaire de ce qui déplaît pour être tranquille avec son reflet, cet œil des concitoyens toujours prêt à s'étonner. À ne pas vous remettre. Et vous n'aurez plus de place réservée si l'on ne vous remet pas. C'est une bonne méthode pour repeindre les guillotines en machine à trancher le pain quotidien que de mettre au rancard tous nos nœuds pas très clairs où la chair est presque à vif. Caserio bredouille. Vive la révolution sociale ! Et lorsque le reprennent les gendarmes, comme le ferait une quinte de toux, il se tourne à demi vers les jurés et cette fois crie « Courage, camarades ! Vive l'anarchie !» Onze jours plus tard, sur le cours Charlemagne, de l'autre côté de la gare Perrache, derrière les voûtes, de l'autre côté où se dresse en l'honneur de l'autre Carnot, le grand-père, une république statufiée, qu'on vient d'ailleurs d'alléger, mais pourtant toujours aussi grasse, les deux parties du corps de Caserio ne se reconnaissent plus. Il a fallu pourtant le soutenir, le porter jusqu'à son décapsulage, la séparation de son esprit et de son corps en deux. Rappelons-nous que d'après la partie civile, et même son défenseur désigné, son père était épileptique, ce qui était tout à fait dans les vues du procureur de la République. We'll be right back. comme chaque semaine hebdomadaire, chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel bien laiteux de Mirlingue la brumeuse aujourd'hui. Et il y a peu de chances de voir s'approcher des studios de Radio Canu, la navette spéciale de Miss Cosmos et de Mister Milouz, mais enfin. On est venu avec Mister Milouz cette semaine hebdomadaire pour vous parler d'un aspect des humanités, c'est-à-dire que un aspect de l'islam et les humanités de l'islam et qui exclut la philosophie. Oui, oui, c'est bien. Vous savez sans doute, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, que vous devez la connaissance de vos philosophes antiques aux penseurs et mathématiciens arabes, qui l'ont précieusement conservée et transmise, tandis que vous vous en fichiez comme d'une chaussette trouée. Ce que j'en dis cette semaine hebdomadaire, c'est que... On a découvert avec Mister Milouz le prochain programme de l'éducation nationale du fragment Maroc, grâce à notre télescope de notre constellation des Pénates. C'est singulier, oui. Au chapitre Philosophie et foi, il est écrit « La philosophie est une production de la pensée humaine contraire à l'islam. » Elle est l'essence de la dégénérescence. Ah ben voilà une réforme de l'éducation qui promet sur ce fragment, n'est-ce pas, Mister Milouz ? Le principe affiché en couverture est l'islam tolérant. C'est sur la couverture du manuel. Les philosophes du fragment Maroc parlent de contenu diffamatoire. Nous vous soumettons cette question d'examen, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Où s'arrête la liberté de penser ? Il faut savoir, quand vous évoquez le salafisme, qu'il prône textuellement que la philosophie est le summum de la démence et de la dépravation. Si, si, on l'a lu avec Mister Milouz, grâce à notre télescope. Et il y a une suite. Citation. Elle provoque l'angoisse et l'errance, l'hérésie et la mécréance. Philosophie. Ah bah oui. Il y a donc, chers élèves de Radio Canette, suivant la logique, une science religieuse et une science profane sur le météorite qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Poursuivons le raisonnement, oui. Les sciences humaines sont contraires à la religion. Donc, l'obscurantisme est la règle. Et c'est tout simple, hein, comme un taille-crayon.
ne peut pas être à la fois rationnel et religieux par chez vous, n'est-ce pas, Mr. Minouz? Oui, bah, Mr. Minouz, vous aurez 20. Non, mais là, nous faisons un procès d'intention au ministère de l'Éducation nationale du fragment baroque. On sort le programme de son contexte. Les samizdat cités ont pour but de passer les élèves, plutôt de les pousser à la réflexion. Ce sont des affirmations positives qui mettent la philosophie en question, ainsi que toutes les sciences humaines. C'est sain pour l'esprit. En fait, vous avez affaire à un islam du juste milieu. Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, et c'est le roi du fragment Maroc qui l'a dit. Un islam très doux et pacifique, qui ne s'appelle plus islam sur le manuel par là-bas, mais religion tout court sur le bouquin. Et la messe est dite. Bon, alors, nous on vous proposera une chose, hein. Pour la prochaine semaine hebdomadaire, le thème de votre composition sera... Deux points. La laïcité est-elle compatible avec la religion sur le météorite? Eh ben, on va vous laisser à vos copies avec Mr. Milouz, et puis on va essayer de faire redémarrer notre navette spéciale pour regagner notre constellation épinate jusqu'à la prochaine semaine hebdomadaire où on ramassera les copies.
Thank you. as quick as a price fight. Days is all night. Yeah, they all night. The future stabbed like a rubber band. Off my phone on a hand-to-hand. He drew from the waist, put two in his roof, and I can't. Still living screens all night. These days is all night. The smoke blows through the bars, and the CEO laughs face as he strolls away. Says I gotta pay off that runaway, or it's fuck your visitation days. So I pop off and in solitaire, I dream of off and he spread his stairs, and the skin off my fingers tear. Yeah, we digging for windows here, where the days is all night. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus belle des radios, et non pas grippée, hein. Ne pas confondre. Et c'est l'émission Les Petits Tas dans le Mou. On vous rappelle qu'on fête aujourd'hui la Saint-Lip, patron des humanités, et que, grosso modo, la question du jour est: la culture aide-t-elle à lever les scrupules ? Rubrique Gamma, pour le bonheur bourgeois. On a beau maîtriser ses humanités, comme le prince de la Lippe d'Etmolt, la vie n'en est pas moins monotone quand on est issu d'un milieu bourgeois. Le bonheur consiste en une adaptation permanente avec cet argument roboratif du raisonnable. Le bonheur, c'est l'adaptation à la monotonie de la vie. Devenir monotone pour s'accorder à la vie. Ainsi, on peut affirmer aux amis que l'on vit pleinement. Et vivre pleinement, c'est la définition d'être heureux. Il y a bien des esprits maladifs qui se moquent de la logique et du bonheur bourgeois. Ils tournent en dérision la vie monotone du bourgeois qui perçoit la vie quotidienne dans une régularité désarmante. La femme tient la maison, les enfants sont bien élevés. On bavarde à plaisir avec les voisins selon les horaires impartis à cette tâche. On a des connaissances inscrites sur le calendrier pour quelques rendez-vous annuels. Bref, les esprits maladifs et illogiques sont jaloux du bonheur bourgeois. Ils prétendent que l'esprit est avide de nouveautés, mais dès qu'ils nous en parlent, les nouveautés sont rares. Chaque nouveauté n'est nouvelle qu'une fois. Notre sensibilité n'est pas faite pour évoluer dans la perturbation. La sensibilité est limitée et ne vibre pas indéfiniment. L'excès de nouveauté finit par lasser. Les stimulations ne sont pas faites pour tous les instants, sinon on les subit tout simplement, ce qui n'est pas une vie. Allez, j'en reviens à la monotonie. S'adapter à la monotonie, suivez-moi bien, c'est trouver que tout est toujours nouveau. La vision bourgeoise de la vie est une vision scientifique. Tout est toujours nouveau. Qui pourrait affirmer que le déroulement de ce jour est identique à celui d'hier ? Le mieux chez le bourgeois, c'est qu'il ignore ce que je viens de vous exposer. S'il avait conscience de sa belle philosophie, il ne pourrait savourer son bonheur. Quand je lui expose à quel point je l'admire, il se contente de sourire. C'est pour cela que je le livre à la postérité, le bonheur bourgeois, contre toutes les moqueries dont il fait l'objet par les gens inconsidérés. Pour en revenir aux origines, si Dieu avait révélé son projet à Adam de lui insuffler la vie, le premier homme n'aurait jamais ouvert la bouche pour que l'âme y pénètre, il serait resté golem. Et même l'âme, elle aurait protesté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je dois passer par la trachée pour atteindre le fond de l'être. Dieu aurait dû insister et se fâcher pour qu'on se soumette à ses ordres. Ce n'est pas agréable de devoir expliquer ses intentions à tout bout de champ. On est amené à user de l'autorité en exigeant du sujet concerné qu'il n'ait pas à comprendre les tenants et les aboutissants, puisque c'est ainsi. Tu passes par la trachée, tu vas te nicher dans le cerveau et tu attends qu'Adam éternue parce que tu auras encombré ses narines. Quand il aura éternué, je pourrai le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Le fait est qu'Adam eut bientôt mal à la tête, sans comprendre pourquoi. Dès qu'il le put, il s'en plaignit à son Dieu. Dieu dit « Ne te préoccupe pas de ton rhume de cerveau. » Mais Adam, si j'ai mal à la tête, c'est que j'ai commis une faute. À ce moment-là, Dieu fut bien surpris. « Comment as-tu connaissance que tu as commis une faute ?»« Parce que je réclame la clémence pour soulager ma céphalée et que je n'ai pas encore inventé l'aspirine. » Eh bien, je t'accorderai ma clémence quand tu te seras agenouillé et que tu auras appris à dire « Grâce soit rendue au Seigneur des mondes ». Alors, non seulement tu seras soulagé de ton mal de crâne, mais tu entreras dans la vigueur de ta chair, tes os, ton sang, tes vaisseaux, tes ongles et tes nerfs. Vous voyez l'origine du bonheur bourgeois ? Mais Adam faisait partie de ces esprits maladifs et illogiques dont j'ai parlé. La bonne chair qu'on vous offre peut se transformer en fiel si vous voyez dans l'eau courante se former le glaçon qui vous rafraîchira à la saison chaude. De là, de ces réflexions incongrues, le cœur peut se pétrifier. Vous enviez la nourriture de votre chien, ce qui n'arrive jamais aux bourgeois. Pourquoi avoir désiré ce qui ne vous était pas destiné ? Le projet le plus infâme est que Dieu lui-même se mette à croquer la pomme et la pâter pour chien. Le bourgeois y met bon ordre. Voilà pourquoi sur ces ondes, on en a fait l'éloge. Un bon coup du bonheur bourgeois. Et voici venir notre ultime rubrique, la rubrique Ba-Ba-Yaka. Celle que les gourmands et les jaloux appellent suspicion. On ne peut pas conclure cette émission sans souligner qu'avant de faire ces humanités, on est quand même confronté à la nutrition dès la naissance et que dès lors, cet aspect est premier. Vous allez me rétorquer que J'en suis mêlé jusqu'au cou. J'y ai mes intérêts, moi, père Niccolò Sforghersi. Les humanités n'empêchent pas le business. Et le fait que je me préoccupe des papilles gustatives de la clientèle, aussi bien que de sa tendance aux soupçons. J'ose affirmer que sur le sujet des aliments, nous sommes en guerre totale. Sucré, salé, amer, acide. En conjuguant les formules de base auxquelles sont sensibles nos terminaisons nerveuses, il est possible de renverser les convictions les plus assises, les professions de foi les plus arides. Je confirme par l'alimentation la preuve de l'existence du péché charnel, car rien n'arrête celui qui a pris goût à une texture, à un appel culinaire, fut-il dénoncé par d'éminents nutritionnistes. Vous le tenez par la moelle! Sans recourir à un large tapage publicitaire, on en revient toujours à la nourriture, quel que soit le mode de vie. On en revient toujours à ce geste vital de porter des ingrédients à sa bouche, geste qui appelle une quantité de réflexes et de caprices. Expliquez-moi cette attraction pour les produits dérivés, les simulations de saveurs, le zéro absolu de la santé et de la sauvegarde des écosystèmes. La farine de maïs se prête à tous les mariages, associée à l'huile végétale, lactosérum, amidon modifié, enzymes, babeur, caséinate de sodium, colorant, glutamate, acide lactique, graisse de toute origine. Nous salivons pour un rien, pour un souvenir, une apparence, pour une sensation de fantaisie, l'appel d'un rayon de soleil, la jupe d'une maman disparue. Les humanités, je le veux bien. Mais la nourriture est une enjôleuse qui fait passer le vice pour un besoin, qui mêle l'énergie vitale à de vieilles pulsions cannibales. Et puis si j'en parle, je peux bien vous avouer que c'est mon petit défaut, ma consolation, quelque chose à me mettre sous la dent, qui est davantage qu'un nutriment, qui est une Madeleine de Proust, qui est tout un monde de convivialité et d'intimité. Vous m'ôtez ce penchant ? Autant dire que vous m'ôtez la vie, ce qui rythme heureusement ce royaume de contraintes horaires où il est rare qu'on fasse ce qui nous plaît. Cela n'interdit pas, vous vous en doutez, l'approche mathématique du problème. C'est en cela que l'école a été utile et l'est encore parfois. Nous savons jongler avec des plus et des moins, des multiplicateurs, des diviseurs, des inconnus à des degrés divers, des exponentiels et des différentiels, une gamme complexe de parenthèses, enrobée dans une sémiotique particulière. Les publicitaires ne sont pas les seuls à jouer sur les glissements de langage, sur les équations félonnes. Le travail du traducteur ne va pas sans finesse, surtout à l'ère du soupçon. Tiens, on va quitter le domaine de la bouffe. Voici une opération que j'ai menée pour conquérir une part du marché japonais. Sur le sujet du couple, savez-vous que les Japonais détiennent la palme de la susceptibilité ? Voici comment je m'y suis pris. marché du soupçon. Le marché du soupçon est, pour qui sait s'y prendre, source d'une bonne rentabilité. Quand règne le soupçon, la confiance réciproque n'est plus une méthode adaptée. Nous pouvons appeler le chimiste. En effet, les chimistes ont su se substituer aux onéreux services secrets et autres détectives privés. Notre produit s'appelle tout simplement soupçon. Soupçon. Il est constitué de deux sprays complémentaires de la taille d'un tube de rouge à lèvres, aisément transportable sur le lieu de vacances. Pour le moment, ce produit ne s'adresse qu'à la population masculine, son versant féminin étant en cours d'étude. Au moindre doute, sur une tache importune apparue au coin d'un linge intime de votre partenaire, profitant de son passage à la salle de bain, vous propulsez un jet du spray A à l'endroit soupçonné. Il suffit d'attendre une minute avant de mettre en action le spray B sur la même cible. Si la tache vire au bleu, inutile de vous faire du sang. Vous êtes cornard. La chimie est intraitable. Elle a démasqué le sperme. Attention pourtant, elle ne dit pas s'il s'agit du vôtre. En l'état des composants, les couleurs ne se déclinent pas en fonction du génome. Mais on peut supposer que votre vérification n'a pas été faite au hasard, ni n'importe quand. Vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même et à votre mémoire en cas de bévue. Il est conseillé de bien réfléchir avant l'emploi des tubes de soupçon. Une erreur dans l'agenda ou une distraction passagère suffirait à briser inutilement un tendre lien. Le laboratoire a prévu cette clause dans la notice et se dégage de toute responsabilité en cas de suspicion erronée. L'air du soupçon. L'air du soupçon. Gastronomie et soupçon.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de bas quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que Madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que Madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son nom sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir de Byzance. Madame traite son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Madame promène les villes jusque dans le midi de la France.
Les remparts de Varsovie, Jacques Brel. Ceci pour conclure notre émission, bien entendu, consacrée aux humanités. Et bah, Madame avait certainement fait ses humanités pour mener bon train ainsi cette vie, tandis que Monsieur ne quitte pas l'Alcazar, il fait toutes les tâches. Nous vous incitons donc, chères auditrices et chers auditeurs, jusqu'à ce soir minuit, à vous faire cette réflexion. Est-ce que votre culture vous aide à lever vos scrupules ? Est-ce que plus vous êtes cultivé, est-ce que plus, du moins, moins vous avez de scrupules ? Ça, c'est une question. questions philosophiques qui peut rentrer dans l'ordre des humanités. Et on propose aussi que vous nous rendiez la copie la semaine prochaine. Et en grec ou en latin, hein, bien sûr, parce que les humanités, ça comprend le grec, thème, version, thème, grec, latin, etc. En attendant, on va vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, la plus belle des radios. Ce, jusqu'à la prochaine semaine. Il y aura bien sûr quelques émissions, on ne les annonce pas trop là, parce qu'en ce moment, bon, on ne sait pas qui vient pas, ce qui est bien normal, de prendre un peu de repos. Mais pour nous, la prochaine semaine, donc, nous serons le 5 janvier, et ce sera la Saint-Birbe, patron des pontifiants. Après les humanités, les pontifiants, là. Pontificateur, vieille birbe. Voilà, à la prochaine semaine hebdomadaire, si tout se passe bien.
Express.